Limite.
Quelle est ta définition du réel?
C'est comme les maillons d'une chaîne.
Le point culminant de votre civilisation.
Préparez très fort, protéger ce qu'on aime.
Bravo, grand bienfaiteur de l'humanité.
On trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas.
On ne peut pas résoudre un problème.
Exponential growth will take us to the limit.
Limite.
Very soon.
Avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème.
Nouveau talk sur Limite avec Étienne de Calataille, économiste belge qui a travaillé à la fois pour la Banque Nationale de Belgique pendant toute une période de sa vie, mais également pour le FMI, Fonds Monétaire International. Il a également été économiste en chef pour la Banque de Grove, et avec lui on a voulu creuser et comprendre si aujourd'hui les riches étaient globalement prêts à faire un effort drastique au niveau de leurs finances. Comment financer la transition? Et lui qui gère un portefeuille d'actifs avec sa société qui s'appelle Orcadia, faut-il taxer les super profits.
Limite.
Quelle est ta définition du réel?
Étienne, bienvenue sur cette chaîne. Étienne de Calataille, ça vient d'où ce nom?
De Hongrie.
D'accord.
C'est un nom hongrois. J'ai en fait un lointain ancêtre qui a migré vers la Belgique. Mais c'est donc pas du tout en lien avec les événements de 1949 quand un certain nombre d'Hongrois ont quitté le régime communiste. Ça n'a pas de lien avec d'autres événements historiques. C'est une affaire purement privée et qui a amené cet ancêtre, début du 19e siècle, à venir vers la Belgique.
Et cet ancêtre qui a, à travers ses progénitures, engendré indirectement un homme, enfin, à travers plus d'autres, un humain, exactement, qui a eu un poids important en Belgique. Bon, il faut le dire quand même. Hein. Donc, tu as travaillé pour le cabinet de Jean-Luc Dehaene, oui. Dans les années 90, 90, excusez-nous les Français. Toute une histoire. Je voudrais que tu te présentes étape par étape. Mais d'abord, bienvenue à vous sur Limite. N'hésitez pas à vous abonner, commenter cette vidéo et réduire la résolution. C'est important. Et si vous appréciez la conversation qu'on va avoir aujourd'hui, n'hésitez pas à nous aider sur Tipeee, puisqu'il est évident que cette chaîne reste et restera, quoi qu'il arrive, un média indépendant pour qu'on puisse justement dire des choses très sérieuses. Aujourd'hui, on va en dire avec un économiste comme toi. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, nous dire un petit peu ton pédigré?
Oh, mon pédigré, c'est l'économie, effectivement. Avec une petite anecdote, je suis en réto, le prof de français nous demande à chacun d'entre nous qu'est-ce qu'on va faire comme étude. Moi, je réponds l'économie. Il me dit, je suis déçu. Parce que l'économie a une connotation négative. Et certainement dans des milieux plutôt intello, l'économie c'est l'argent c'est sale. Et alors que pour moi c'était, avec beaucoup d'anticipation, mais c'était déjà comprendre la société dans laquelle on est, en fait, et être un acteur dans cette société, un acteur du changement dont elle a besoin. C'était aussi voilà, d'autres considérations. Mais donc voilà, donc je suis économiste. Ma maman, quand j'étudiais en Angleterre, me fait parvenir une offre d'emploi de la Banque nationale de Belgique recrutant un économiste. Je postule, ça marche. Puis je vois une annonce d'emploi circuler à la Banque nationale, comme quoi le Fonds monétaire international cherche des économistes et on peut postuler. Je postule, j'ai de la chance, ça marche. Et nous voilà partis pour 4 ans aux États-Unis. Puis là, j'ai un copain qui me dit « Mais Jean-Luc Dehaene cherche un chef de cabinet francophone, ça pourrait t'intéresser. Ça m'intéresse, je postule. » Et ça, de nouveau, j'ai de la chance, ça marche. Et puis, il y a le chef de cabinet du ministre des Finances à l'époque qui se fait nommer à la Banque nationale. Il faut le remplacer. On me demande de le remplacer et je le remplace. Et puis, arrive 99, les élections 99. C'est la période après Dutroux, c'est la crise de la dioxine. Dehaene perd les élections. J'étais en congé sans solde du Fonds monétaire. Donc, c'était soit retourner à Washington avec toute la famille ou bien rester et trouver un autre boulot. On décide de prospecter le marché en Belgique. Je sais que le lendemain soir de ces élections, il y a un groupe d'amis à la maison, dans lequel il y a le directeur de la Banque nationale, de la Banque de Grove, et je lui dis, tiens, est-ce que tu n'aurais pas besoin d'un économiste? Il me dit, avec son humour, non, certainement pas, mais enfin, on voit toujours ton CV. Et ça marche.
Ça a matché quand même.
Et donc voilà, et donc c'est un parcours qui n'est pas du tout un parcours préconstruit, c'est de la chance, et voilà.
C'est du travail, c'est du talent.
Oui. En fait, moi j'aime bien dire que pour aux étudiants, pour réussir, il faut une combinaison de trois choses. Dose variable, mais il faut plus a priori quand même. Il faut deux des trois. Il faut de la chance, du travail et de l'intelligence. Vous pouvez éventuellement vous permettre de ne pas avoir un des trois. Si vous n'avez pas deux des trois, c'est plus compliqué.
Quelle est ta vision du monde? À travers quelle paire de jumelles, à travers quelle lunette tu observes le monde?
des jumelles de celui qui a la volonté de l'action et l'optimisme de l'action. Il y a cette fameuse phrase qui va contraster le pessimisme de la raison et l'optimisme de l'action. Je pense qu'on se doit d'être utile. Donc ça, c'est certainement un moteur. Et je pense que l'économie, pour ça, c'est un bon créneau. Mais il n'y a pas que ça, hein, on est utile de toute manière. Et ma vieille maman, du haut de ses 89 ans, est utile aussi à sa manière. Quand elle prend des nouvelles de quelqu'un, quand elle est là pour écouter. Donc il ne faut pas nécessairement être un médecin ou un infirmier ou un économiste ou que sais-je, ou un ministre pour être utile, bien entendu. Donc être utile, oui, ça c'est certainement quelque chose... Il y a la dimension, on va dire, humaniste, mais je crois que la plupart d'entre nous le sommes. Enfin, 99,9%. Je ne sais pas combien de pourcents de la population l'est. Je n'ai pas vraiment de réponse claire à cette question-là.
Est-ce que travailler dans la finance aujourd'hui, c'est précipiter l'humanité et la biodiversité et le vivant au bord du gouffre ?
J'ose espérer que non, sinon je serais vraiment dans l'erreur. Mais peut-être que je suis dans l'erreur, peut-être que je participe à la prolongation d'un système qui autrement aurait plus rapidement montré ses limites et on aurait dû infléchir la course plus rapidement. Et c'est une question que j'ai par rapport à la finance responsable, que très modestement, avec la petite société qu'avec d'autres j'ai cofondée il y a quelques années, on essaie de promouvoir. C'est penser que ça va contribuer positivement. Mais si on me dit que c'est un palliatif, un dérivatif, que c'est une manière de faire de la procrastination, de reporter les vrais choix, que parce qu'on fait de la finance durable, alors on peut se permettre de ne pas prendre les réglementations qu'il faut, à ce moment-là, je serais très embêté et je ne peux pas l'exclure. J'ai la faiblesse de penser que je ne me trompe pas. J'ai la faiblesse de penser et je trouvais intéressant les déclarations d'un François Jemaine, qui est ce politologue bien connu, qui est aussi qui est actif au GIEC, qui a suivi la campagne et a participé activement à la campagne de Jadot en France dans les présidentielles comme le candidat écologiste, et qui nous disait, le soir des élections, on s'est foutu. Qu'on a pu décrypter comme étant le changement ne viendra pas vraiment des citoyens quand on voit comment ils votent. Le changement, est-ce qu'il viendra du vote citoyen, est-ce qu'il viendra de nos hommes politiques, c'est difficile pour eux d'avancer plus vite que le reste et de ne pas se montrer en phase avec l'opinion. Et quelque part, j'ai l'impression que dans la pensée de quelqu'un comme un François Jemaine, les entreprises font partie du problème et de la solution. Mais que si on se limite au volet solution, les entreprises ont une part significative.
Donc aujourd'hui, c'est quoi ? Tu gères un fonds comment ça se passe en fait
Les gens qui ont la chance d'avoir du patrimoine, mais aussi indirectement, vous pouvez investir au travers de, entre guillemets, l'intelligence d'Orcadia si vous avez 100 euros. Hein. Donc, mais si votre client en direct, c'est 250 000 euros, ce qui est une somme que la plupart d'entre nous n'avons pas, évidemment.
Non, j'ai pas.
Donc voilà. Pas encore. Mais donc l'idée, c'est investir mm-hmm. cet argent, soit dans des fonds. Mm-hmm. Des fonds, c'est comme un dépôt commun, ou bien faire de l'investissement sur mesure. Mais il y a toujours l'idée d'avoir un filtre de ce qu'on appelle l'investissement responsable. Et l'investissement responsable, comme il est le plus commun pratiqué, dans le jargon on appelle ça best in class, c'est-à-dire en fait on va regarder les entreprises chimiques, on va pas dire je ne veux aucune entreprise chimique, on va regarder les entreprises chimiques, on va regarder celle qui fait le mieux ou le moins mal. Sur quelle base ? Ça ne peut être qu'une base environnementale, ou bien ça va être une base à la fois environnementale, mais aussi de considération sociale et de gouvernance. Voilà, les méthodologies vont varier d'un environnement à l'autre, mais c'est ça l'idée. La pharmacie, vous pourriez penser que toutes les entreprises pharmaceutiques sont à condamner parce que...
Le fameux Big Pharma.
Voilà, vous pouvez condamner le Big Pharma.
Non, ça sauve des vies.
Vous pouvez penser que dans les compagnies pharmaceutiques, il y en a certaines qui se comportent mieux, ou de nouveau moins mal que d'autres, et vous voulez encourager celles qui font moins mal, vous les donnez un petit coup dans le dos à celles qui se comportent mal en disant, mais regarde, aussi longtemps que tu te comportes mal, tu n'auras pas mon bel argent. T'aimerais bien que je t'investisse mon bel argent. Eh bien, je vais à ce moment-là te pousser à changer. Si tu changes, tu pourras aussi avoir une partie de mon bel argent.
Et donc toi, tu t'estimes plus comme une personne qui veut transformer les choses de l'intérieur du système, ou plutôt quelqu'un qui veut le révolutionner en disant, non, c'est bon, je claque la porte et c'est... Vers où tu penches plus ?
Non, je suis un réformiste, je ne suis pas un révolutionnaire. Très très clairement, je pense qu'on peut avoir de la compréhension pour ceux qui veulent plus de radicalité. Par exemple, dans le débat économique, une question importante, c'est la décroissance. Je serais à penser que c'est une solution qui est in fine contre-productive. Mmh. D'aller raconter à des Indiens ou à des Éthiopiens, mais aussi à ceux qui ont des fins de mois difficiles en Belgique, j'ai une bonne idée pour nous tous, c'est la décroissance. je suis pas sûr que ça va le faire. Et donc, c'est vrai, voilà, un exemple où je vais plutôt penser à une croissance qualitative, c'est une expression qu'un certain Bertrand Piccard utilise, mais ça ne lui est pas propre. Voilà, mais ça n'empêche pas de la radicalité, hein, et même un Bertrand Piccard, il faut être beaucoup plus strict en matière de régulation. Extraire encore des matières premières aujourd'hui du sol, c'est quelque chose qu'il faudrait faire de manière extrêmement, extrêmement limitée. Donc, et ça peut, on peut être radicaux, mais tout en jouant avec les règles du jeu.
Parce que quand on regarde un petit peu, on a l'impression que le système, on se dit « Ah oui, il faut le changer, le système est malade ». C'est souvent une phrase qui revient, que je vois beaucoup en commentaire ou quand des gens discutent. Et je sais pas, moi, cette phrase ne me percute pas parce que j'ai plus l'impression que non, le système fait son travail en fait. Il a été conçu comme ça. Alors on peut parler de capitalisme et peut aller plus loin de néolibéralisme, mais qu'on est dans un système, quoi qu'il arrive, qui a pour but d'extraire, de transformer et de vendre. Et donc, ce n'est pas le système qui est malade, c'est le système qui fonctionne ainsi. Et tu penses que la réforme, vraiment, parce que moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que je ne connais pas du tout ton portefeuille, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais est-ce que c'est une notion de croissance verte dans laquelle tu crois ou c'est...
Oui, moi, je pense que des mécanismes de type économique peuvent répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Prenons par exemple les énergies fossiles. Une part du souci, c'est qu'elles sont beaucoup trop bon marché. Pourquoi est-ce qu'elles sont si bon marché ? Eh bien, parce que ce qu'on prend dans le sol, on ne paye pas le sol. On ne paye pas Mère Nature pour prendre le... Alors que, bon, vous pouvez dire, mais au fond, c'est bizarre qu'un litre de lait, ce soit plus cher qu'un litre de pétrole. Ah ben oui, parce que le litre de lait, il faut le payer depuis la goutte de lait. Tandis que le pétrole, il est là.
Il est donc, là. Alors que la vache, il faut l'amener à maturation, il faut lui donner à manger, donc il faut prendre... Voilà,
c'est... Voilà un exemple. Une autre dimension, c'est ce que dans notre jargon d'économiste, on appelle les externalités négatives. Mm-hmm. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est quoi ? C'est que je ne suis pas responsabilisé pour ma pollution. Quand je pollue, eh bien, on ne me demande pas de payer un prix qui reflète l'incidence négative de mon comportement sur la collectivité. Je pense que, à cet égard, une taxe responsabilisant chacun pour son comportement serait une excellente chose. Donc je pense à la puissance de mécanismes économiques. Je suis un grand adepte de ce qu'on appelle la taxe carbone, couplée à ce qu'on appelle un dividende carbone. Donc tout le monde payerait en fonction de ce qu'il pollue. Ça fait un gros pot. Et de ce gros pot, qu'est-ce qu'on fait ? On le redistribue. À qui est-ce qu'on le redistribue ? On peut le redistribuer de la même manière à chacun. Et comme les pauvres polluent nettement moins que les riches, eh ben pour les pauvres, ce serait une bonne chose. Oui, bien sûr, quand ils polluent, ils payeraient plus, mais ils recevraient davantage. Imaginons, on demande aux pauvres de payer 100, parce que, on demande aux riches de payer 300 de taxes parce qu'ils polluent 3 fois plus, ça fait qu'on collecte 400. Eh bien, on redonne 200 aux riches et aux pauvres. Donc le pauvre a payé 100 en plus, oui, mais il reçoit 200, il y gagne. Le riche, il a payé 300 et il reçoit 200 en retour du pot. Et donc, vous voyez que c'est une taxe carbone est foncièrement redistributrice. Donc il y a très bien moyen de concilier fin du mois et fin du monde avec des mécanismes de type économique.
C'est drôle parce que quand j'entends parler de taxe carbone, moi ça résonne en moi comme gilet jaune en France. Mm-hmm. Parce que dès qu'elle a été appliquée, bah, les prix sont montés. Et c'est drôle, je crois que tu as dit dans une interview que, et tu viens de le préciser encore là maintenant, les énergies fossiles, elles sont gratuites. Elles sont là. Donc pourquoi ne pas les prendre ? Au niveau des taxes, il y a le crédit carbone, mm-hmm. Qui tourne depuis, je pense, le début des années 2000, qui au final n'ont absolument pas changé grand-chose. Hein. On émet toujours autant de gaz à effet de serre, parce que c'est quoi qu'il arrive, on a les fonds, on a les finances, bon, on achète à celui qui va moins polluer, qui n'a pas forcément les finances, donc c'est un petit peu comme ça que se passe le transfert. Mais tu as dit un truc, énergie fossile gratuite, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait les payer en les sortant de la terre, et que ça résoudrait toute la problématique qu'on a aujourd'hui, parce que tu as aussi dit dans une interview récemment que tu estimes que l'énergie aujourd'hui doit être chère.
Ah oui.
Ça fait froid dans le dos ce que tu dis pour beaucoup de gens.
Ah, je comprends. 46% des Belges ont déclaré qu'au quatrième trimestre 2022, ils avaient du mal à finir leur mois. Et il y a un pecno comme moi qui vient leur dire, j'ai une bonne nouvelle, l'énergie va être encore plus chère.
Et elle doit être plus chère.
Mais elle doit être plus chère.
C'est ça que tu dis.
C'est ce qu'on appelle, de nouveau, c'est un raisonnement d'économiste, et ce n'est pas évident de le faire passer. Mmh. Certainement pas qu'on peut en même temps émaner d'une certaine suffisance ou arrogance, parce qu'on a clairement des fins de mois qui ne sont pas problématiques. Mais oui, je pense qu'il faut un signal prix. C'est comme ça que nous parlons, nous les économistes, il faut un signal prix très très fort. Mais il faut évidemment accompagner ce signal prix d'une juste redistribution. C'est pas cet argent qui va être collecté en payant plus cher pour son énergie, qu'est-ce qu'on en fait ? Et je redis, aujourd'hui, les 50%, les Français les moins nantis, sont en ligne avec les accords de Paris. Donc, à eux, entre guillemets, on ne doit pas leur demander de changement maintenant. Alors, en fait, il faut déjà, parce que c'est sympathique d'être en ligne avec les accords de Paris sur la trajectoire 2030, mais après, ça ne va pas. Donc, ils vont eux aussi devoir faire des efforts. Mais, et qu'on vienne pas avec un « oui, mais le pauvre, il n'a pas d'argent pour isoler sa maison et donc il consomme beaucoup plus ». En fait, proportionnellement, il ne va pas consommer plus que le riche, en fait, il va consommer moins. Et donc, il va être gagnant de cette fiscalité environnementale, de cette taxe carbone. Le système du crédit carbone, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le système est extrêmement intelligent. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on l'a calibré de telle manière qu'il fait pas mal. Ah oui, mais ça, c'est très, très différent. Ça, c'est le lobby de l'industrie. Le lobby de l'industrie, c'est pas ce qu'un économiste va recommander. Il y a un divorce entre les deux. L'instrument est bon, la mise en œuvre a été complaisante.
Oui, parce que moi, j'essaie toujours de regarder un petit peu depuis la mise en place et les courbes, et qui les achète le plus, et ça reste toujours les grosses entreprises qui peuvent se permettre de continuer et de continuellement polluer davantage. C'est drôle ce que tu dis quand tu pars du principe que voilà, et je comprends cette mesure, la contrainte. D'ailleurs, je pense que ça a été un gros débat au niveau de l'Europe, hein, de est-ce qu'on plafonne les prix au moment où il y a la crise en Ukraine, forcément de se dire l'énergie là, on la plafonne et c'est bien et comme ça le portefeuille du contribuable ça va aller. Alors que d'autres disaient non, au contraire, laissez monter parce qu'on doit faire des économies absolument parce qu'on va pas en avoir assez. Et finalement, bah la contrainte plus le fait que l'information a circulé, qu'il faut mettre le chauffage à 19 degrés, a fait qu'on a fait même mieux, l'Europe a fait mieux que ce qui était prévu. Donc, comme quoi l'adaptation, ça marche. Mais entre-temps, il y a des mouvements sociaux qui commencent à se mobiliser en Europe. Il commence à y avoir une sorte de colère du peuple. Cette solution-là, tu penses vraiment qu'elle peut passer s'il n'y a pas l'éducation et l'explication de pourquoi on le fait? Parce que très honnêtement, ok, moi je suis conscient des limites planétaires et j'ai dit à tout le monde, ok, on réduit, on met des pulls, ah, t'as froid, bah tant pis pour toi. Mais très bien, parce que j'ai creusé la problématique et je la comprends et je sais que c'est inhérente à notre avenir. C'est comme ça, on ne va pas pouvoir y échapper. Mais il y a des personnes qui sont tellement dans leur métro boulot dodo, dans leur environnement, dans leur cercle qui résonne de la même façon. C'est normal qu'ils aillent dans la rue tout casser.
Et c'est pourquoi je pense qu'il est normal que l'on commence par demander à ceux qui ont des épaules plus larges de faire, eux, les premiers efforts. Je pense qu'il ne faut pas aller avec une mesure où on va demander à tout le monde des efforts. J'aurais envie qu'on demande à tout le monde des efforts, mais que dès le premier jour, on demande un surcroît d'efforts à ceux qui ont des épaules plus larges. À ce moment-là, je pense que l'opinion acceptera. L'opinion accepte des mesures difficiles si elle voit que ce sont des mesures efficaces et des mesures justes. Si vous pensez que vous êtes le dindon de la farce, vous n'en serez pas.
C'est un peu la direction qu'on prend pour l'instant, hein.
Je crois pas. Je ne pense pas.
Les grosses sociétés qui augmentent leur capital pendant la période Covid, encore aujourd'hui, qui... Alors, toi, tu as une vision d'économiste. Moi, j'ai une vision à travers les médias et les communications des médias. Et les résultats des chiffres d'affaires. Mais quand tu as Total qui pète son score de chiffre d'affaires et plein d'autres, les compagnies pharmaceutiques qui, en Belgique, aussi ont augmenté, je crois que Solvay a augmenté son chiffre d'affaires, a battu des records, tu dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc étrange, là. Quand tu sais que la fortune des riches alors j'ai pas le chiffre exact, mais a augmenté, je sais pas si elle a triplé ces dernières années, là, tu te dis, ok, il y a un bug dans la matrice, un petit peu.
Et c'est pourquoi les mesures de type environnemental doivent être accompagnées de mesures de type social. Mais si on a aujourd'hui que les bénéfices d'entreprise sont plantureux, c'est pas d'abord et avant tout parce qu'on a pris des mesures environnementales. En fait, c'est d'autres phénomènes qui expliquent cela, c'est notamment la globalisation, c'est une tolérance que nous avons par rapport à une perte de concurrence entre entreprises. Ce sont des phénomènes qui ne sont absolument pas en phase avec la théorie économique. C'est de nouveau, en fait, ce que nous pratiquons aujourd'hui, c'est pas un déni de l'économie, c'est par rapport à l'économie théorique, vais-je dire, c'est en fait ce qu'on appelle en anglais du crony capitalisme, du capitalisme de copinage ou pour ne pas dire de corruption. Prenez un exemple, les parachutes dorés. Vous avez le parachute doré et puis vous avez par ailleurs la rémunération des patrons. La rémunération des patrons dit oui, mais les gens, ils sont super intelligents et ils prennent vachement des risques, ils peuvent être virés du jour au lendemain. Oui, mais attendez. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas avoir des super rémunérations et en plus un parachute doré. Moi, je veux bien qu'il y ait une grande rémunération de la prise de risque, mais pas qu'il y ait une grande rémunération de la prise de risque et pas de risque. Tout comme je ne veux pas, dans le capitalisme comme on le connaît aujourd'hui, qu'il y ait une privatisation des gains et une nationalisation des pertes. Ah non, moi, mon capitalisme...
Ce qui est le cas pour l'instant.
Ce qui est fréquemment le cas. Et encore, dans les crises bancaires, on le voit. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les actionnaires de Crédit Suisse, ils auraient dû être rincés, mais complètement, même pas recevoir 76 cents de francs suisses par action, juste rien, ça ne valait plus rien. Ah oui, mais UBS a accepté. UBS a accepté de racheter Crédit Suisse parce qu'UBS avait le soutien de la Banque Nationale Suisse. S'il n'y avait pas le soutien d'une institution publique, UBS n'aurait jamais un euro cent dans Crédit Suisse. Donc, les actionnaires de Crédit Suisse doivent accepter que ça ne valait plus rien. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est d'abord nationaliser Crédit Suisse en disant, Crédit Suisse, je vous impose de recapitaliser, de collecter des capitaux pour vous renforcer. Et je demande, tiens, quels sont les actionnaires privés qui sont prêts à mettre de l'argent au pot? Personne ne serait sorti du bois. Donc, l'État a dit, OK, moi, je vais remettre de l'argent au pot. Mais comme je suis le seul, chaque nouvelle action, je la souscris à un prix de 0,001 francs suisse. Ah ben voilà. Et il serait devenu actionnaire très largement majoritaire en ayant recapitalisé. Et puis, dans la seconde d'après, le jour d'après, la semaine d'après, il dit « Ok, maintenant j'ai nationalisé, c'est vrai, j'ai pas la compétence d'être moi patron de banque, je revends cette banque à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards par exemple, à 3 milliards à UBS parce que je vais en même temps donner mon soutien. » Là, on aurait fait, alors je vais pas pleurer, le gouvernement suisse peut se permettre de perdre 3 milliards et ça va pas me mobiliser, je vais pas aller manifester pour. Mais c'est ça qu'il aurait fallu faire conceptuellement.
Donc en fait, refaire en sorte que l'État reprenne le contrôle sur toutes ces situations.
Alors l'État, moi j'adore raconter, quand je me suis marié, on est parti en Angleterre, puis on est revenu. Et quand on est revenu, ben, on s'est installé dans un petit appartement à Bruxelles, il n'y avait pas le téléphone, on demande d'avoir le téléphone. C'était encore quand l'État s'occupait du téléphone, c'était la RTT. Eh bien, on a eu deux possibilités. La première, c'était, vous faites la procédure usuelle, 5 à 6 mois d'attente avant d'avoir la connexion. Ou bien vous demandez à quelqu'un qui est bien introduit, et vous avez la connexion en 2 jours. Je dois confesser d'avoir eu la faiblesse de demander à un copain qui travaille au cabinet de Louis-Michel le père, et on a eu effectivement la connexion 2 jours plus tard. Les communications entre mon épouse et ma belle-mère n'ayant pas de prix, on était prêts à cela. Donc quand l'État se mêle de gérer les télécoms ou d'autres choses, c'est rarement brillant. Quand l'État se mêle de gérer la nature, ben j'ai envie de dire, c'est un argument un peu facile, mais regardez ce qui s'est passé avec Staline. Donc, c'est quand même... je pense que malheureusement, trop souvent, la gestion par les pouvoirs publics est défaillante.
Bah alors, est-ce que c'est pas humain? Parce que finalement, la grande accélération est due au néolibéralisme et au capitalisme. Or, on a quand même effondré la biodiversité à un niveau jamais égalé dans toute l'histoire de l'humanité sur c'est pas de temps, le climat c'est pareil, l'acidification forcément, la transformation des sols, les cycles du phosphore et de l'azote, c'est... Sans doute que si on était resté dans un communisme soviétique, ça aurait été pareil, on aurait tout déforesté, de la même façon, c'est inhérent à l'humain.
Il y a une forme de myopie, il y a une forme d'égoïsme, il y a une forme effectivement de « après moi les mouches » qui est inhérente à l'humain, mais je crois qu'il y a moyen de la surmonter. Je me refuse de penser que l'humain est intrinsèquement mauvais, mais je pense que des bons mécanismes de prix peuvent corriger cela, et que si ce qui détruit la nature est plus cher, ben, vous ferez un peu plus attention. Qu'est-ce qui fait que pour la première fois, la consommation de gaz est baissée fin de l'année dernière en Europe, et pas de peu, de 20%. Ça fait quand même depuis 50 ans qu'on a le rapport de Club de Rome. Ça fait depuis plus de 30 ans qu'on a eu Rio, c'était 92.
Je ne l'ai pas médiatisé, on n'en parlait pas.
J'ai jamais
entendu parler de Meadows avant de m'intéresser à ces questions-là.
Oui, d'accord. Enfin, qu'il y ait une problématique environnementale, ça ne date pas de 2022. Hein. En 2021, 2020, 2019, on le savait déjà. Et on le savait, mais on ne changeait pas de comportement. Mmh. En 2022, moins 20%. Qu'est-ce qui a changé pour expliquer que brutalement...
Ah bah, une crise.
Le prix. Mmh. Le prix de l'énergie. Donc le prix, par rapport à mon pouvoir d'achat, l'énergie coûte cher, eh ben, je commence à faire plus attention. Il en a fallu... J'aurais tellement préféré que nous ayons collectivement l'intelligence de réduire notre consommation d'énergie fossile sans que l'énergie soit chère. Moi, je préférais vivre dans un monde dont l'énergie fossile est très bon marché, mais nous ne la consommons pas parce que nous savons qu'elle est polluante. Mais faute d'avoir pu, ces dernières décennies... à aller dans ce sens-là. On a vécu dans une énergie pas gratuite, mais pas très chère, et on en a consommé et toujours plus. Je me dis, il y a un truc qui va peut-être marcher, c'est de rendre l'énergie plus chère.
Et qui va pourrait mettre les gens en colère, du coup.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut combiner une énergie plus chère avec une énergie interdite. Je m'explique, il faut combiner des signaux de prix et des signaux de régulation. Je ne veux pas être dans un monde dans lequel le riche Pour qui, lui? Si c'est plus cher, il s'en fout, il continue à te polluer tant et plus. Non, le riche, il ne peut pas vider sa cuve à mazout dans le fond de son jardin, même si on lui demandait de payer 1000 euros, il s'en fout, il aurait envie de le faire, il le ferait. Ah non, il n'a pas le droit de détruire la nature. Le politologue Sandel a écrit là-dessus, hein, ce que l'argent ne peut pas acheter. Je ne voudrais pas vivre dans un monde où n'importe qui peut acheter le rein de qui que ce soit simplement en payant, quoi, hein, vous ne voudriez pas de ça. Et donc, acheter le droit de tuer la nature, non, je ne veux pas aller jusque-là. Donc il y a plein de choses qui doivent être tout simplement interdite. Mais si vous procédez avec la fiscalité, en rendant ce qui pollue plus cher, vous permettez une flexibilité, une agilité qui va mieux coller à ces différences de préférence entre toi et moi. Je prends un exemple. Ma maman ne prend pas la voiture, mais souhaiterait aller de temps en temps en Italie voir notre fille, ma sœur, sa fille, elle prend l'avion. Moi, je renonce à l'avion, mais en revanche, j'aime bien aller le week-end à la campagne, je prends la voiture. Et imaginons que, pour résoudre les problèmes environnementaux, il suffirait de soit interdire l'avion, soit interdire la voiture. Ben, ce serait bête. On déciderait collectivement, on interdit l'avion. Ma maman serait interdite d'avion, et on lui dirait, oui, tu peux prendre une voiture. Ça ne fait pas son truc, ça. Ou on dirait, ah ben non, on va interdire la voiture, et on autorise l'avion, parce que ça suffit, on n'a pas besoin d'en faire trop. On interdit, ah ben non, mais moi ça ne m'intéresse pas de prendre l'avion, moi ce qui m'intéresse, c'est de prendre ma voiture. L'avantage de la fiscalité, c'est de dire, ben, Étienne, c'est plus cher, et ben, tu consacres ton revenu soit à prendre l'avion, soit à prendre la voiture. Dans le cas de ma maman, elle consacrera ses moyens à prendre l'avion, moi je consacrerai mes moyens à prendre la voiture. Donc l'avantage de la fiscalité, c'est d'être beaucoup plus agile par rapport à nos différences dans nos préférences. Je suis devenu végétarien, mais il y a d'autres gens qui vont avoir d'autres comportements pour avoir un impact moins négatif sur la planète. Je ne veux pas imposer mon végétarisme à tout le monde, mais que chacun fasse l'effort qu'il a envie de faire là où ça lui est le moins pénible. Là, en fait, pour moi, intellectuellement, la meilleure chose à faire, ce serait de donner à chacun un budget CO2.
Toi, moi, on y arrive. C'était la description que tu me faisais. C'est le budget CO2.
J'ai un budget CO2. Et je la loue comme je vais. Et il y a un débat, si j'ai un surplus de CO2, je vis de manière extrêmement sobre, donc je n'utilise pas tout mon quota. Est-ce que je peux le revendre à quelqu'un ou pas? Donc les plus puristes ou intégristes, c'est selon dire non. Chacun a son budget, c'est non négociable.
Du libéralisme, ça.
Voilà. Mais une autre solution serait de dire chacun a un budget. Et il peut le vendre. Et moi, je suis plutôt enclin dans la seconde option. Dire, ben oui, on peut le vendre, parce que si moi, j'ai envie de... Je renonce à beaucoup de petits plaisirs très polluants pour avoir d'autres plaisirs, ben, ça augmente mon bien-être. Où est le problème, quoi? Donc, j'ai envie de dire, allons pour cette voie-là. Alors, c'est une voie qui apparaît aujourd'hui très, très lointaine, mais c'est pour moi la direction dans laquelle nous aurons à nous engager.
Parce que quand la Commission européenne, le Parlement européen vote une loi de la fin des voitures thermiques, sauf les voitures de luxe, à essence, qui rouleront à l'e-fuel, biocarburant, enfin voilà, c'est beaucoup du greenwashing pour tout ça, et le prix est de façon très élevé, donc ça reste accessible à une certaine catégorie des gens. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, non, c'est pas ce qui est en train de se mettre en place. Est-ce que dans le moment où il va y avoir un portefeuille carbone, c'est quel le terme que tu avais utilisé? Un bilan carbone par personne?
Ouais, c'était un budget carbone.
Un budget carbone. Est-ce que quelqu'un comme Bérard Arnault ou Vincent Bolloré aura exactement le même budget carbone que les autres, ou alors lui, il aura un passe-droit parce que vu sa fonction, il peut se permettre de carboner ou de brûler davantage?
Alors, j'ai envie de dire, pas de passe-droit. Ceci dit, mais le médecin qui travaille pour Médecins sans frontières, il peut avoir un budget carbone plus élevé que le mien.
Oui.
Voilà. Donc, ceux qui, pour des raisons professionnelles, par exemple, sont amenés à prendre l'avion, le diplomate peut avoir un budget carbone plus élevé que moi.
Dans un cadre de protection de la voilà. Planète Terre, des individus.
Le diplomate, le médecin, ouais. le chercheur qui participe à un congrès international ou qui doit collaborer,
c'est justifié.
On serait bien bête d'aller dire non. Mais donc, si Bolloré en a besoin pour aller voir ses succursales, je ne suis pas contre.
N'importe quel personne. Oui.
S'il va à Saint-Barth pour passer quelques jours au bord de sa piscine, j'ai envie de dire, ah là, non. Quoi. S'il veut faire de l'héliski au sommet de je ne sais quel sommet, mais je vais dire non.
Mais si c'est pour voir toutes ces succursales qui ont un effet délétère sur la planète Terre d'un point de vue social et environnemental.
Ah, il faut s'y prendre par rapport à ces activités délétères-là. C'est pas parce que c'est Bolloré, je veux pas faire du Bolloré bashing.
Non, mais il y en a d'autres.
S'il a une entreprise qui pollue, ben, il faut que cette pollution soit interdite, soit rendue tellement chère qu'on n'ira plus s'approvisionner auprès de cette entreprise.
Mais plein de gens, tu sais, l'être humain pense quand même fortement à son intérêt personnel. Et il va participer à une grande cause à partir du moment où il y gagne dans son intérêt personnel. une décroissance subie par contraction énergétique, par diminution des hydrocarbures, pour éviter un cataclysme climatique, pour éviter l'effondrement de biodiversité et tout ça, forcément, c'est revoir notre façon d'habiter le monde, d'habiter l'espace, et forcément, c'est une forme de restriction à partir du moment où on a connu un niveau de « Oh, j'achète une nouvelle PlayStation, j'ai un nouveau téléphone, je peux partir en vacances quand je veux », et que tu augmentes ton niveau de vie pour lequel tu as travaillé toute ta vie. C'est un peu la mission et c'est surtout la cible que nous offre, que ce soit l'école, les médias, le courant de la planète Terre aujourd'hui, c'est déployez-vous, ayez votre maison quatre façades, votre grosse voiture. Mais à partir du moment où tu atteins ce niveau-là et que tu as travaillé pour et qu'on t'a dit que c'était ça le contrat social, notre convention commune, et que tout d'un coup, ah ben non, finalement, on va te restricter, et surtout, tous les jeunes de banlieue, tous les jeunes qui vivent en cité en France, ou même, on va dire, tout le reste de l'humanité qui n'a jamais pu profiter d'une seule fois d'un avion. Mais comment est-ce que tu veux pouvoir leur mettre dans la tête à ces gens-là « Ah, désolé les gars, vous n'allez pas pouvoir manger ce fameux gâteau parce qu'il n'y en a plus. » C'est, ça, je suis désolé, mais pour moi, c'est les prémices d'une révolution internationale, ça. C'est un rêve qui s'effondre et ça peut faire mal.
Oui. Ça peut évidemment faire mal, et donc il faut être très très attentif. On n'a rien à gagner de mouvements sociaux de grande échelle. Tout ce que ça peut dire comme mal-être et comme destruction, c'est de la soustraction de valeur. C'est évidemment pas dans cette direction qu'il faut aller, donc il faut manœuvrer de manière fine. Et il faut des efforts de pédagogie extrêmement importants, et il faut que, comme je l'indiquais, ceux qui ont les épaules plus larges commencent par eux-mêmes balayer devant leur porte. Que ceux qui ont beaucoup pris l'avion, que ceux qui ont beaucoup pollué réalisent que leur comportement a été ce qu'il a été et qu'ils ont donc une responsabilité particulière. S'il y a des dérèglements climatiques qui aujourd'hui font de tels dégâts au Pakistan, c'est la faute de qui ? De ce que moi j'ai eu comme comportement hier, avant-hier, avant-hier, ce que mes parents ont eu comme comportement avant-hier. Donc c'est la résultante, la dégradation du climat. C'est pas que mon comportement d'aujourd'hui, c'est aussi mes comportements d'hier et nos comportements collectifs. C'est pour ça que, par exemple, la Belgique s'est enrichie en ignorant complètement les effets délétères de son enrichissement sur un bon nombre d'autres pays.
Notre jour du dépassement est toujours le 26 mars. Hein.
Tout à fait.
C'est partie du top des pays les plus...
On a à bon droit aujourd'hui un débat sur les dégâts du colonialisme, mais on n'a pas encore le débat sur la responsabilité de la Belgique dans les problèmes climatiques que l'on a au Pakistan. Or, ils sont importants. Donc la logique élémentaire voudrait que nous tous, une cotisation pour, à tout le moins, dédommager le Pakistan et essayer de l'aider à se reconstruire.
C'est pas du tout la direction qu'on prend. J'ai l'impression que c'est la promesse, que ce soit celle des droits de l'homme, et que c'est un idéal qui est mis en place dans lequel l'humanité et les pays et la géopolitique essayent d'aller. Mais la réalité, Étienne, moi, là, de plus en plus, la sensation de me dire qu'un privilégié, érudit, or, qui a compris les problématiques, va se dire... Pas de problème, je réduis mon train de vie parce que je suis la cause. Toi et moi, on fait partie des 10%. Je connais pas ton patrimoine, ça se trouve, tu fais partie des 1%, je n'en sais rien. Moi, je peux te dire, oui, je fais partie des 10%, ça c'est sûr, par rapport à l'humanité. Et donc, moi, je vais devoir faire un effort drastique. Mais moi, j'ai surtout peur que notre classe moyenne, en fait, s'érode, ce qui est en train de se produire, on est en train de le vivre, elle s'érode, qui fait que des gens tombent dans une forme de pauvreté, et qu'elle s'érode tellement que, ou soit tu bascules du côté des très riches qui s'accaparent tous les flux, lorsqu'il y a un problème climatique, tu privatises les pompiers et tu protèges ce qui t'appartient, tu privatises les services de sécurité, tu privatises les conduits alimentaires, et puis tous les autres, produisez pour nous, faites pour nous, et on vous endort un petit peu avec du Netflix et des réseaux sociaux, etc. Je fais une caricature, hein. Et sur le côté, on vous met beaucoup de Coupe du Monde, beaucoup de divertissement comme vous voulez, et on vous met limite le casque de réalité virtuelle, un peu comme dans un film Ready Player One, où le monde entier vit dans une pauvreté et n'a que le divertissement, et font des boulots de misère. Moi, j'ai l'impression qu'on tend vers un monde où l'élitisme va rester, quoi.
Alors, par rapport à ça, c'est certainement une menace. C'est vraisemblablement ce vers quoi nous allons si nous ne changeons pas. Il y a un travail culturel extrêmement important à faire. Un levier important, c'est la publicité, la réglementation, la régulation de la publicité. Il y a aussi des prises de conscience. Pour avoir dans une vie intérieure beaucoup pris l'avion, avoir notamment été dans des quartiers blancs de villes africaines, notamment à Madagascar, on voit une belle villa avec une belle piscine.
C'est le domaine dans toute l'Afrique d'ailleurs,
dans toute l'Afrique, préciser, hein. Mais derrière des murs avec des tessons en haut et des gardiens à l'entrée.
Et des chiens.
Moi,
et tout ça,
ouais. C'est pas un truc qui me fait rêver. Moi, je préfère avoir un boulot de classe moyenne dans je ne sais où, plutôt que de me dire, ça c'est vivre dans une prison dorée, qui peut avoir... J'ai du mal à imaginer, mais il y a des gens que ça tente, évidemment, hein. Mais faire aussi ce travail sur ces personnes aisées-là, se dire qu'aujourd'hui, vous savez, nous perdons en espérance de vie par notre pollution. C'est pas que les Pakistanais qui souffrent, hein, c'est moi, ce sont mes enfants, je vivrais mieux si, depuis que je roule à vélo intensément dans Bruxelles au lieu de la voiture, eh ben je me sens mieux. Et d'avoir remplacé la voiture par le vélo, c'était au début peut-être une contrainte, même aujourd'hui où il pleuvait, j'ai eu zéro regret. On me proposerait une voiture avec chauffeur que je me dis, gardez-la, je préfère mon vélo, quoi. Et donc, il y a vraiment moyen de... Mais la publicité importante, le conditionnement collectif, c'est pour ça que, par exemple, tout ce qui est ostentatoire est particulièrement à condamner. Et que ceux qui ont les moyens de dépenser ont une responsabilité particulière pour ne pas trop dépenser, et en tout cas pas de manière ostentatoire. Un exemple que j'adore donner. Quand j'étais gamin, dans la classe, il y avait un gars parmi nous qui allait au sport d'hiver. Et on disait, oh ben oui, ça doit être gay. Mais on n'était pas jaloux, c'était. Mais si, dans la classe, il y a une majorité d'enfants qui vont au sport d'hiver, je voudrais bien que les miens puissent y aller aussi, quoi. Et donc il y a vraiment un effet de... On le sait bien, j'ai envie de consommer ce que le voisin consomme largement. Et donc, tout ce qui est la finance comportementale, l'économie comportementale aujourd'hui est tout à fait éveillée à ces réalités. Et donc, il y a une responsabilité de ceux qui ont... pour faire de la désescalade consumériste.
C'est très beau parce que tu as donné un exemple de ce qui se passe dans une classe, mais aujourd'hui, c'est amplifié avec les réseaux sociaux. Alors même si la France commence à légiférer, qu'en Belgique aussi, bon, faites pas ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, mais ils partent dans d'autres pays, ils sont soumis aux autres législations, même si ça s'adresse à un public français par exemple, ils doivent se réguler, donc dire qu'ils utilisent un fil, parce que ça crée de la dysmorphophobie chez les jeunes adolescents et chez les enfants, c'est très très grave. Mais cette vie ostentatoire-là... Kim Kardashian, toute la famille Kardashian, qui sont extrêmement suivis sur les réseaux sociaux. Parfois, ils ont même plus de followers que des donc de France et de Belgique que les meilleurs influenceurs de France et de Belgique. Ils sont en train de donner la direction d'un monde de qui est « Atteignez ma vie
ouais. ».
Et en allant dans les écoles et en discutant, il y en a plein qui sont soucieux du changement climatique, que ce soit jusqu'à l'université, mais qui à la fois se disent « Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la moula, c'est l'argent ». Je dois pouvoir le gagner, je dois pouvoir vivre comme tout le monde. Et c'est-à-dire que cette transformation culturelle, je me demande sincèrement si elle va être possible. Et si toi, tu as des idées comme ça qui pourraient permettre, alors, économie, il y a une forme d'économie aussi là-dedans, hein, mais c'est quoi? Régulation de la pub qui permettrait d'avoir un impact? Régulation des GAFAM, des pubs à travers les GAFAM? C'est une régulation à l'échelle européenne, on peut imposer aux GAFAM de certaines restrictions. Un arrêt définitif de la pub? Sauf l'institutionnel, pour les médecins sans frontières, etc.
Mais... Ça ne me dérangerait en soi pas. L'économiste pourrait dire, oui, mais la pub, ça le permet à quelqu'un qui lance un nouveau produit de se faire connaître, de concurrencer des acteurs qui sont en place et on a besoin de ce dynamisme, ça c'est vrai. Mais le plus souvent, la pub, elle n'est pas de cet ordre-là. Hein. La pub, elle va inciter, et regardez encore aujourd'hui la publicité automobile. C'est pas du tout une publicité qui va vous présenter les détails techniques de la voiture, c'est une publicité qui va travailler sur, entre guillemets, l'émotion, avec des artifices qui sont très souvent encore sexistes. Je me scandalise qu'en 2023, il soit encore possible d'associer une dame en petite tenue avec une voiture. Or, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Et donc, oui, il faut être beaucoup, beaucoup plus sévère pour la publicité. Ça me semble être une évidence.
Tu sais que quand je t'écoute comme ça, bon, pour moi, c'est un projet de société de décroissance que tu me dis là.
De décroissance dans un certain nombre de secteurs, oui, certainement. Moi, l'exemple que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est celui de la salle de cinéma. Si la salle de cinéma est remplie au moitié et que demain, elle est remplie aux trois quarts, avec des gens qui seront rendus au cinéma à pied ou à vélo, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Et pour le PIB, il sera tout bon. Et quand on aura dépensé plus pour isoler nos maisons, ah ben ça aurait été tout bon pour le PIB aussi. Et quand on aura transformé notre agriculture, ben, il y aura beaucoup plus d'emplois dans l'agriculture de demain qu'il n'y en a aujourd'hui. Et donc, il peut parfaitement réconcilier de la croissance économique, du profit et de l'emploi dans un monde qui irait nettement mieux. Donc, la décroissance, oui, dans l'aviation, de décroissance, ça je suis sûr. Oui.
Voilà, vous êtes plus dans cette notion de se dire qu'il y a des secteurs qui doivent croître, d'autres qui doivent décroître. Mais en tant que... Est-ce que toi, tu poserais sur tes épaules le mot décroissance comme véritablement cette vision d'un projet de société de diminution de matériel, de diminution de flux énergétique? Est-ce qu'un jour, tu penses t'inscrire dans ce courant-là?
Aujourd'hui, non. Peut-être que j'évoluerai. Rien de tel que quelqu'un qui ne change jamais d'avis. Hein. C'est une catastrophe. Keynes a une très belle phrase pour dire « Oui, il m'arrive face à de nouveaux faits de changer d'avis. » Vous aussi, n'est-ce pas? Et donc, bien sûr qu'on le fait. Et on se doit de le faire. Donc, on doit évoluer. Mais c'est la direction que nous devons prendre, oui.
Parce que c'est vrai, tu as raison, moins d'énergie fossile pour notre agriculture, pour nos machines en général, plus de gens, plus de main-d'œuvre. Donc, mais alors du coup, c'est vraiment toute l'école qu'il faut revoir. Moi, personnellement, j'essaie de me battre pour ça, pour sensibiliser qu'on a, on n'apprend pas en Belgique, dans les écoles professionnelles, la mécanique de voitures électriques. C'est quand même une notion importante. Je vois des jeunes que je croise en 7e professionnel qui apprennent encore la bonne voiture thermique, où je me dis, mais ils apprennent, pourquoi ils apprennent ça?
C'est ridicule. Mais ça me fait penser à une phrase ou une expression de Bertrand Piccard qui dit, mais en fait, le capitalisme, comme on le pratique aujourd'hui, ne devrait pas s'appeler capitalisme. Ça devrait s'appeler crétinisme. C'est une belle expression. Et qu'est-ce qu'ils disent par là? En fait, un capitalisme qui se met l'accent à ce point sur la dimension du capital physique, qui n'accorde pas beaucoup d'importance au capital humain, et encore moins au capital naturel, alors que le capital physique, le capital humain et le capital naturel devraient tous les trois entrer en considération, eh bien, c'est un capitalisme idiot, c'est un capitalisme de crétin, c'est du crétinisme.
J'avais discuté avec un confrère, collègue, je ne sais pas très bien, Bruno Coleman, il n'y a pas très longtemps, qui, lui, est sorti du placard, il est arrivé dans le jardin, bon néolibéral qu'il pouvait être, en disant, ben voilà, le néolibéralisme est incompatible avec les limites planétaires. Si demain, la Belgique devait prendre une décision, ou l'Europe, parce que c'est surtout l'Europe qui impose ses choix. Toi, tu penses qu'une des premières mesures, c'est quoi qu'il arrive, garder le prix des énergies haut? Ça, tu campes sur ta position? Pour toi, c'est quelque chose qui est indélogeable de la transition?
Oui, avec simultanément des mesures d'accompagnement social, des mesures de réduction des inégalités. Il faut qu'on réalise que...
On taxe les super-profits?
On taxe les super-profits, mais en fait, ce qu'on devrait faire, c'est taxer plus les profits, tout simplement. Cette notion de super-profit ou de sur-profit est une notion assez difficile à déterminer. Quelqu'un qui met au point un super-médoc et puis il va faire plein d'argent avec ça, ben oui, c'est du sur-profit, c'est du super-profit, mais on va le trouver sympathique, lui. Ben, je ne sais pas, je suis content qu'il y ait le médoc. Donc moi, je pense que dans les années d'après-guerre aux États-Unis, on a eu une croissance économique extraordinaire, avec des taux de pression fiscale relativement élevés. La fiscalité n'est pas l'ennemi de... Alors, je ne sais pas qu'il faut être confiscatoire, je ne veux certainement pas envisager un régime de type communiste, mais la fiscalité, on a connu une course au moins 10 ans fiscale sur le plan des entreprises, ça n'a pas de justification économique en termes d'innovation et de dynamisme économique. Ça, c'est du blabla, comme certains porte-parole de certains partis politiques aiment le diffuser, mais ça ne repose sur rien de scientifique.
Toi, t'es du genre, oui, la technologie, la technique, les innovations, ou t'es plus de manière, alors c'est très gauche-droite, très yin-yang, hein, mais ou t'es plus de pencher sur, ah non, sobriété, solution?
J'ai envie de penser les deux. Donc, il faut investir massivement dans la technologie. Il faut se demander pourquoi. Même Bill Gates l'évoque dans son bouquin sur l'environnement, des technologies qui sont aujourd'hui disponibles, du style pompe à chaleur. Comment ça se fait que... Il ne faut pas l'inventer, elle est inventée, elle est là. Comment se fait-il qu'on n'y passe pas davantage, quoi, hein? Et donc, ça, c'est, la technologie fait partie de la réponse, mais on ne peut pas se permettre un pari sur le fait que demain, on aura la solution technologique, donc on peut se permettre de continuer à polluer tant et plus aujourd'hui. Ça, non. Donc, ma réponse, c'est de la technologie et des efforts massifs pour la technologie et simultanément de la sobriété dans de très nombreux domaines. Que ce soit l'agriculture, l'alimentation, la mobilité, le chauffage, que sais-je.
Et comme tu l'as dit, ça ne peut passer que s'il y a une justice sociale derrière. Comment ça se passe quand tu discutes avec des actionnaires, peut-être, ou avec des personnes qui ont des gros portefeuilles, peut-être, qui travaillent avec toi, qui ont des millions, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont conscients de la situation? Est-ce qu'ils savent que leur argent, c'est important? Où est-ce qu'ils le placent, la banque dans laquelle ils sont? Ou c'est, bon, après moi le déluge, tu crois ce qu'il y a un peu là-dedans?
Non, je pense que, allez, dans nos sociétés, avec un fort héritage judéo-chrétien, l'argent est souvent connoté négativement. Et donc vient, avec le fait d'avoir un patrimoine, un plaisir, mais aussi une certaine forme de culpabilisation. Et vient aussi une difficulté possible de relation avec les générations plus jeunes. Oui, j'ai de l'argent, mais je me suis enrichi comment ? Pour partie, c'est en sacrifiant la planète, etc. Et l'avantage, quand on raisonne en termes d'investissement plus responsable, c'est d'inverser. C'est que l'argent qui était sale devient un argent levier, un levier de changement. C'est en étant actionnaire, je ne suis plus le seul actionnaire, le sale actionnaire, je suis l'actionnaire militant. Militant est un bien grand mot, mais l'activiste, il y a une forme d'activisme de l'actionnaire. Alors, nos clients n'ont pas l'impression d'être des activistes, mais quelque part, il y a ça.
Tu es sensibilisé dans ce sens-là ? Tu fais la vulgarisation ?
On dit que nous, on ne fait que de l'investissement responsable, mais on ne veut pas devenir des prédicateurs. Est-ce que le nucléaire fait partie de la réponse ou du problème ? Qui suis-je pour le savoir ? Moi, j'entends un Jean-Pascal Van Hipperzuel qui dit qu'il faut prolonger quelques centrales de quelques années. Ça semble être une bonne idée. Et je me dis, ben, il y connaît sacrément plus que moi, donc je vais plutôt l'écouter. On est dans du domaine où on ne sait pas. Est-ce que la voiture électrique est the solution ou pas ? Je n'en sais rien. Peut-être que demain, on se rendra compte que la voiture électrique est plus problème. Il y a quelques années, on a vendu les biocarburants. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était une bêtise monumentale. Alors, pour partie, on s'est fait enfumer. Mais il y a des personnes de bonne foi qui ont promu les biocarburants et qui, aujourd'hui, ont l'impression d'avoir été tout à fait trompées sur la marchandise. Et donc
ça me rappelle beaucoup de choses. On est beaucoup enfumé aujourd'hui dans ce modèle de croissance verte, attention.
Il y a de l'enfumage, et donc c'est puisqu'il y a de l'enfumage, il y a des choses que nous ne savons pas, ce serait bien mal placé pour moi dire « j'ai la solution, suivez-moi, il faut tout mettre dans l'éolien, il faut tout mettre dans le soleil ». Demain, on pourrait penser que, en fait, finalement, les voitures à moteur électrique, c'est pas une bonne idée, que l'éolien, il y a des effets qui étaient sous-estimés, peut-être. Je crois qu'avant de montrer que l'éolien aura des effets aussi désastreux que l'énergie fossile, les poules auront des dents. Mais voilà. Donc, il faut le faire avec une certaine retenue parce qu'il y a encore des inconnus de type scientifique.
Et c'est vraiment toujours leur but, même s'ils misent dans du responsable, de se dire « bon, ça c'est bien, je vais encore gagner plus d'argent ». C'est toujours vraiment le moteur. Parce que tu m'as dit qu'ils sont un peu militants, mais est-ce que c'est toujours ça
le moteur, dans certaines circonstances, mais c'est plus vrai au niveau des rémunérations qu'on a pu observer ça, que le moteur puisse être l'ego. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Ce que l'on gagne est parfois perçu comme l'indicateur d'une vie méritant d'être vécue. C'est évidemment faux. Mais
c'est le construire.
Voilà. J'ai beaucoup gagné, c'est la preuve que ma vie... J'ai beaucoup gagné, c'est aussi vu... ce qu'on gagne est vu comme un indicateur de l'intelligence. Je suis très intelligent puisque je gagne beaucoup. C'est évidemment faux. Mais imaginez, le patron de Fortis et le patron de Dexia à l'époque, et il y a le patron de Dexia qui se considère comme plus malin que le patron de Fortis. Ben, la meilleure manière de faire savoir au monde entier qu'il est plus intelligent, c'est de gagner plus. Vous voyez, je gagne plus, c'est bien la preuve que je suis plus intelligent. Et donc là, il y a une sorte de course à l'échalote. Et donc là, ça on peut avoir. Mais je pense, non, chez les personnes que je rencontre, l'argent, ça va être autre chose. C'est quelque part une forme d'indépendance. Je prends ma petite situation personnelle. Quand dans ma vie professionnelle, j'ai été confronté il y a quelques années à quelque chose qui ne me plaisait pas, j'ai osé dire non, alors que c'était avec un coût financier important, c'était renoncer à un niveau de rémunération élevé, mais je l'ai fait parce que je pouvais me le permettre. Et je n'en voudrais jamais à quelqu'un qui n'a pas cette aisance financière d'avoir l'impression d'être lâche et de céder. Et non, le gars qui a une détraite à payer, je comprends qu'il accepte de continuer à travailler dans un environnement professionnel qui ne soit pas celui qu'il considère comme étant, sur le plan éthique ou sur le plan efficacité, le meilleur qui soit. Donc l'argent peut donner cet élément de liberté, d'autonomie. Et il y a aussi des préoccupations intergénérationnelles. Je veux du patrimoine parce que j'ai envie, je pense à mes enfants, mes petits-enfants, on ne sait jamais, il peut y avoir un accident de vie, un handicap, une maladie, que sais-je. Alors, c'est des choses qu'il faut pouvoir entendre et qui, moi, donc, ne me choquent pas. Peut-être que c'est de la complaisance de ma part d'accepter que certains puissent avoir envie de ça. Mais à dire vrai, j'ai plus de sympathie pour le gars qui se met de l'argent de côté que pour le gars qui passe ses vacances à Saint-Barth, qui vole en jet privé
dans son monde,
et qui a ses trois Ferrari dans son garage. Celui-là, j'ai du mal. Celui qui se dit, mais mes enfants pourraient avoir un jour besoin d'un coup de pouce financier, je vais les aider. En comparaison, il n'y a pas photo à mes yeux.
Parce que c'est malheureusement, cet accaparement des richesses, cet accaparement de... Alors, je suis bon avec mon képi, là, ça fait être Che Guevara un peu, hein, mais... capacité d'investir, cette capacité de financement, c'est malheureusement ça aujourd'hui, avec un épuisement des ressources, qui fait que quelqu'un qui se fait un salaire de 60 000 euros par mois ou qui a des rentes, je ne sais pas, à hauteur peut-être par mois de 10 000 euros, ça fait que de l'autre côté, des gens tombent dans la précarité.
Alors, certainement que si l'un s'enrichit sur le dos de l'autre, il y a un souci. Je pense que les gens que je côtoie n'ont pas l'impression que ce soit des vases communicants, que c'est parce qu'ils ont plus que d'autres ont moins, qu'ils ne se sont pas enrichis sur le dos de... Il y a certainement des gens qui pourraient... celui qui vous vend cher un mauvais produit doit se demander, mais au fond, est-ce que c'est légitime de vendre aussi cher un mauvais produit ? Mais la plupart du temps, non. Le médecin qui connaît le succès, qui opère bien, etc., ben, il ne va pas se dire ben, « je gagne beaucoup parce que... » Il va se dire au contraire « je gagne beaucoup parce que je soigne bien ». Il ne va pas se dire « je gagne beaucoup parce que je rends d'autres moins riches ». Il va pas l'analyser comme ça.
Mais c'est intéressant peut-être de parsemer quand même ça, qu'une personne qui a un gros capital, c'est quoi qu'il arrive des gens qui vivent dans la précarité de l'autre côté. Alors, non, je sais que sur 8 milliards...
Je ne crois pas.
Parce que ça, de tester ça un économiste.
Oui, mais non, mais c'est parce que derrière, il y a une conception économique extrêmement importante, qui est que le gâteau n'est pas à somme nulle. Je veux dire, en fait, le gâteau n'est pas... le jeu n'est pas à somme nulle, le gâteau n'est pas de taille donnée. En fait, le gâteau économique, il peut grandir ou diminuer. Et donc, les gens que je rencontre, ils ont l'impression de contribuer à l'agrandissement du gâteau. Si effectivement on avait un raisonnement de gâteau de taille donnée, j'aurais un plus grand morceau, je devrais me dire, c'est au détriment d'autres. Ça, c'est le mental d'un Donald Trump. Un Donald Trump, c'est quoi ? C'est un gars qui est dans l'immobilier, il fait des deals immobiliers. Si c'est un autre qui reçoit l'autorisation de construire un casino dans je ne sais quelle ville, ah ben, si c'est l'autre, c'est pas pour lui. Donc la bonne nouvelle de l'autre devient sa mauvaise nouvelle. Et donc, il y a un casino qui peut être construit, c'est l'autre ou c'est moi. Ça, c'est la manière dont un Trump va voir le monde. C'est une relation antagoniste, une relation inamicale. Alors que ma conception comme économiste du monde, c'est pas du tout ça. C'est en fait, ensemble, on peut faire grandir ou se faire rapetir le gâteau économique. Et c'est ça qui est important. Parce que
le cadeau économique va se rétrécir. Ça, c'est inscrit, c'est inévitable.
Alors, si vous le mesurez en PIB, peut-être bien. Mais en termes de bien-être, ce n'est pas du tout dit. C'est aberrant que notre espérance de vie n'ait pas davantage augmenté par rapport à l'enrichissement matériel que le nôtre. On aurait pu penser, avec l'amélioration de notre pouvoir d'achat, que nous allions vers connaître une espérance de vie augmentée de 5 ou 10 ans. Ce n'est pas le cas. Nous mourons trop tôt. Parce que nous mourons de pollution. Ah oui, mais ça c'est quand même...
Nourriture transformée,
De plein de choses. Donc on se nourrit mal, on se divertit mal.
Donc pendant un temps, effectivement, la croissance a permis, assainissement des eaux, a permis d'augmenter énormément notre espérance de vie. Mais aujourd'hui, on a beau faire des scores, des points de croissance de 1, 2, 3, ça ne change plus rien. Notre espérance de vie, enfin en tout cas les données qui sortent aujourd'hui, démontrent que ça descend. Donc ce n'est plus la croissance qui... Voilà, on a arrêté un palier au final.
Que je sache, aux États-Unis, effectivement, lié avec ce qu'on appelle la crise des opioïdes, il y a une décrue de l'espérance de vie. En Chine, il y a une décrue de l'espérance de vie. Ça s'est expliqué par la pollution.
Une augmentation de l'obésité partout.
Chez nous, on n'y est pas encore. Mm-hmm. Mais par rapport à ce qu'on aurait pu atteindre, on lit ces études qui montrent que la mauvaise qualité de l'air coûte X milliers de vies humaines chaque année. Et on reste les bras ballants face à ces... Ah oui, mais on ne sait pas dire si c'est Paul ou Paulette qui est directement concerné, donc on s'en accommode. Mais il ne faudrait pas s'en accommoder. Et donc, oui, si vous mesurez l'économie sous l'angle de PIB, mais ce n'est jamais un économiste qui a dit que le PIB, c'était l'alpha et l'oméga du bonheur. Hein. En fait, c'est un peu Dr. Frankenstein, le PIB. Cet instrument a échappé au contrôle des économistes et est devenu un enjeu médiatico-politique. Et vous aurez tel Premier ministre dans un débat qui, face à l'opposition, dira « Regardez, ma croissance économique, elle est forte ou elle est faible ?» Enfin, elle est forte, celui de l'opposition dira mais non, elle est plus faible que dans à l'étranger. Et donc, le PIB est devenu the mesure, the indicateur d'une qualité dans la gestion publique, mais c'est absolument pas ce que le PIB aurait dû être. Donc, ça a pris une importance dans le débat politique et au médiatique qu'il faut condamner. Donc, en fait, ce serait nettement mieux s'il fallait vraiment n'avoir qu'un indicateur. Moi, je serais adepte de l'espérance de vie en bonne santé.
Merci pour cette discussion autour de l'économie, autour de ton point de vue, de ton prisme, la lunette que tu portes, justement, les jumelles que tu portes sur notre monde. Si tu devais donner des conseils à ceux qui regardent cette vidéo, des jeunes, des moins jeunes, pour qui c'est très complexe, toutes ces questions-là, et on essaye naturellement c'est un peu un comportement humain de pouvoir plus facilement cibler quels sont les ennemis à abattre. Et ça peut paraître très manichéen, mais je vais te demander des conseils. Et qui est-ce qu'il faut abattre? Qu'est-ce qu'il faut abattre aujourd'hui?
Je vais chercher à ne pas répondre. Parce que abattre, c'est un mot que j'aime pas.
Mais c'est pour construire.
Voilà, je préfère construire. Je pense que ce qu'il faut, c'est évidemment passer d'une logique individuelle à une logique collective. Mais déjà, la logique individuelle est fondamentale. C'est pour moi la meilleure manière de résister à ce qui est immanquable autrement. C'est l'éco-anxiété, c'est la dépression pour cause de myopie environnementale et d'égoïsme environnemental. Et si on ne fait rien, on va voir. Je veux dire, j'ose penser qu'au minimum, on n'est pas insensible au point que quand les îles Maldives auront disparu, qu'on se dira « Ah, mais punaise, c'est moi qui ai fait disparaître les îles Maldives. » Et donc, il faut, et j'aurais rien fait, je serais resté les bras ballants. Ah non, ça ne va pas. Donc, il faut bouger. Alors, bien sûr, je peux me penser, ah oui, mais vous savez, aussi longtemps que Bill Gates n'a pas renoncé à son jet privé, aussi longtemps que Branson n'a pas renoncé à son jet privé, pourquoi est-ce que moi, je devrais m'emmerder à faire quelque chose? Si vous êtes dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit-là, je crois que ça ne va pas le faire, que vous allez déprimer. Vous allez dire, mais au fond, j'aurais dû quand même apporter, petit effet colibri, ma petite contribution à chose. Donc, je pense que s'investir personnellement, dans son comportement, mais aussi dans son discours et dans son entourage, c'est très très positif. Je crois qu'il ne faut absolument pas sous-estimer la vertu d'exemplarité. Ce qui tétanise l'homme politique, c'est de ne pas être réélu. Donc, aussi longtemps qu'il n'a pas des signaux qu'il peut venir avec des mesures fortes sur le plan environnemental, ben, il va rester aux abris. S'il faut lui dire, ben non, au sortir du bois, tu ne vas pas te faire fusiller, quoi. Au contraire, tu vas te singulariser et je vais te soutenir. Moi, je pense beaucoup à des vertus de type action collective, et notamment dans le domaine juridique, que demain, on force nos États à prendre des engagements juridiquement contraignants sur leur trajectoire de réduction des CO2. On veut atteindre tel objectif en 2030, et bien on sera là en 2028, on sera là en 2026, et si on ne le fait pas, crac, boum, sanction. Je pense que ça, c'est aussi un élément qui peut nous mobiliser, donc une action de ce type-là. N'oublions jamais notre pouvoir d'être des consommateurs. C'est extrêmement important. Il y a un exemple que j'adore, c'est l'application Yaka. Yaka qui nous informe sur la qualité nutritive de ce qu'on achète. Eh bien, il y a un jour un pétzouille, et puis un deuxième pétzouille, et puis un troisième, et puis un dixième, et puis un millième, et puis 11 millions, et puis 25 millions de pétzouilles qui téléchargent Yaka. Aujourd'hui, quand chez les grands producteurs alimentaires, on se dit « mais tiens, je vais mettre sur le marché un nouveau biscuit », on se dit, mais oh là, comment est-ce que je vais être noté par IACA? J'ai peut-être intérêt à mettre un peu moins de sel, un peu moins de sucre, un peu moins de crasse. Voilà. Et donc ça, c'est génial. C'est la puissance de l'action collective. C'est pas Bill Gates, c'est pas Branson, c'est pas Musk qui ont fait IACA, quoi. Hein. C'est nous tous qui avons fait IACA. Et en envoyant 25 millions de messages en disant, voilà, moi, ça m'intéresse de savoir ce que je mange, eh bien, on fait bouger les lignes. Et on n'a que les supermarchés d'Intermarché, aujourd'hui, ont adapté toute une série de recettes alimentaires pour être mieux noté dans IACA. C'est un formidable signal de ce que nous tous, individuellement et très petits que nous sommes, nous pouvons obtenir. Mais il y a aussi qu'on peut être avec une démarche plus visible, hein, en pétitionnant, en manifestant, en interpellant, en écrivant, bien sûr, ça c'est aussi... Mais voter avec les pieds. Un commerce, un supermarché, s'il perd 5% de sa clientèle, c'est gênant, quoi. Hein. Si 3% de sa clientèle se met à acheter autre chose, hein, ça va peut-être lui faire... Si 3% de sa clientèle dit « mais non, mais je n'achète plus ton jambon parce que ton jambon il est plein de nitrites et je n'en veux pas », mais au fond, j'aurais peut-être intérêt à mettre en rayon un jambon avec pas de nitrites plutôt, et je pourrais alors viser une clientèle de 100% plutôt qu'une donne... Donc, on peut avoir assez vite un impact sur la société. Les choses changent beaucoup trop lentement. Mais donc, ouais, moi, je pense qu'il faut absolument véhiculer cette idée « bougeons-nous et vous ferez bouger les choses ».
C'est drôle, tu me remets sur ce triangle que j'avais imaginé au début quand tu disais « politique, action des politiques ». Est-ce que c'est les politiques qui doivent prendre des mesures fortes et drastiques? Ou est-ce que c'est, et là c'est, tu viens un peu avec l'angle du citoyen? Non, c'est le citoyen qui en fait a les cartes en main et qui peut tout faire bousculer. Puis, de l'autre côté, les entreprises, ils disent « mais nous, on continue, puisque les gens continuent à acheter nos trucs, et voilà ». Et action des trois, puisque les citoyens sont dans les entreprises, sont des politiques.
Bien sûr.
Un éveil, en fait, un éveil massif. Est-ce que cet éveil massif viendra à partir du moment où on se ramassera à Liège, 2 incidents, des inondations, 3, 4, 5 ou des sécheresses? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va tous se bouger?
Peut-être.
Quand on va le sentir passer.
Mais j'y crois pas trop.
Non.
Donc je crois pas que c'est la prochaine inondation qui fera le double de morts ou le triple de morts. Non. Malheureusement, je crois qu'il y aura une forme d'accoutumance. La grenouille s'acclimate au fait que la température de l'eau augmente graduellement, et puis un beau jour, elle meurt. Je pense que il ne faut pas tabler sur le scénario de l'horreur. Et a fortiori, il ne faut pas souhaiter l'horreur en disant pourvu qu'il y ait une bonne catastrophe environnementale, et ça nous fera enfin comprendre qu'on fait fausse route. Ça, j'y crois pas. Je n'y crois pas.
On sera adapté déjà.
Oui. Je préfère une solution.
On s'habituera plutôt.
Je trouve préfère une solution plus enthousiasmante, une solution plus heureuse, avec du militantisme doux. Le gars qui est végétarien, on l'invite à repas, ben on peut peut-être lui faire un plat spécifique rien que pour lui, mais peut-être qu'on peut adapter là. Et donc le gars.
Tous ensemble,
on va évoluer. Non, ben finalement, je peux très bien manger en n'ayant pas mangé de viande, quoi. Et c'est un exemple parmi d'autres, quoi. On proposait de faire une sortie avec des copains, un city trip là. Ah ben non, on va plutôt le faire l'Ardenne ou la mer, c'est sympa. Il fait moins beau, mais c'est pas grave. Et ce genre de choses. Donc je pense que on peut avoir des effets d'entraînement qu'on sous-estime.
Étienne, merci pour cette très sympathique conversation. Je serais ravi de te recevoir ici sur la chaîne. J'espère pas t'inviter pour que tu m'annonces « Bon, écoute, il y a une crise économique, ça y est, c'est le bordel. J'ai tout le monde, tous les clients qui sont en train de se barrer. » Mais vraiment, j'ai passé un très bon moment.
Moi aussi.
Et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous. Allez voir en description, j'ai mis toutes les infos concernant Étienne de Calataille. Et à très bientôt sur Limite.
Salut.
Ciao, ciao.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle qu'il est également disponible sur YouTube en vidéo et nous sommes aussi présents sur les autres réseaux sociaux. Retrouvez nos articles et notre actualité sur le site limite.media. Et si Limite existe, c'est intégralement grâce à vous. Vous pouvez nous aider en envoyant un don sur Tipeee ou encore PayPal.me. Mais le plus important, si vous aimez notre travail, c'est de le partager tout autour de vous. Merci et à bientôt sur Limite.
Limite. Quelle est ta définition du réel ?